Bienvenue dans À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouin. Chaque semaine, vous trouverez ici toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Bonne écoute et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership.
Hala, hala, hala. La peur n'est pas le problème, prophète. Il faut être en colère parfois. La colère provoquée par les gens qui te disent que tu n'y arriveras pas. La colère, la rage provoquée par les gens qui te disent « Est-ce que tu as oublié qui était ta mère ?» La rage que tu as quand tu te rappelles que les gens disent que de cette famille, rien de bon ne sortira. Il y a une colère qui doit prendre tes entrailles et qui doit dire « C'est moi qui est le vrai, qui effacerai la honte du nom de ma famille. C'est moi qui changerai l'histoire de ma dé. » Sandos, c'est vous. On parle des émotions. Le troisième type, ou moins, oui, la pression, l'autre pression dont je veux vous parler, c'est la pression familiale. Il faut que vous sachiez que votre famille deviendra soit votre plateforme, donc votre sol, soit votre plafond. L'éducation qu'on vous a donnée, tu peux jouer maintenant, l'éducation qu'on vous a donnée n'est pas forcément sans faille, mais c'est votre responsabilité d'utiliser ce que vous avez pour fabriquer ce que personne avant vous n'a eu. Je veux que vous sachiez que d'être né dans la famille dans laquelle vous êtes né, même si vos parents ont fait une erreur, Dieu n'en a pas fait. Mais il faut que tu saches que l'instruction qu'on te donne peut devenir une chaîne, de telle sorte que même quand tu as 40 ans, tu n'arrives pas à devenir autre chose à cause de ce qu'on a mis en toi quand tu étais petit. Certains d'entre nous, la raison pour laquelle nous sommes encore pauvres, c'est parce que, en réalité, c'est dans notre cellule familiale qu'on nous a appris à critiquer les riches. Je veux vous dire la vérité. Certains d'entre vous, vous ne pourrez pas être riches. Parce que ce qui coule dans vos veines, c'est la conviction selon laquelle que les riches sont des voyous. Les riches sont des voleurs. Les riches sont des brigands. À chaque fois qu'on voyait un riche passer et que ta famille le voyait, ta famille critiquait, c'est sûr qu'elle couche avec le ministre, c'est sûr qu'il y a ceci, c'est sûr qu'il y a cela. Donc dès le moment que tu dois devenir riche, ce qui est dans ton sang, ce qui est dans ta tête, combat le destin qui est le tien. Mais lève ta main droite, dis ma famille ne sera pas mon plafond. Ton voisin n'a pas bien dit, donc dis ma famille ne sera pas mon plafond. Il y a la pression religieuse. Une église est capable de vous empêcher d'atteindre votre destin. La religion, l'endoctrinement, est capable de vous emmener à dire non à ce à quoi Dieu dit oui. Et à dire oui à ce à quoi Dieu dit non. Si vous ne me croyez pas, demandez à Pierre. Dieu fait descendre une nappe devant lui en disant « Tu es mange ». La religion, l'endoctrinement, il dit non, Seigneur. Moi, ce n'est pas le non qui m'interpelle, ce n'est même pas le fait qu'ils disent non, parce que je comprends Pierre. Mais ce qui me dérange, c'est qu'ils disent non, Seigneur. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il parle au Seigneur, mais ce qu'il a reçu comme enseignement est plus fort que la voix de Dieu. Il est conscient que c'est Dieu qui lui dit « tu es mange », mais il dit à Dieu non. Et j'entends Dieu lui dire « n'appelle pas impur ce que j'ai déclaré pur ». Le problème, mon prophète, c'est que c'est bel et bien Dieu qui a déclaré impurs ces animaux il y a quelque temps. La différence entre la religion et la spiritualité, la religion vous met dans une cage. La spiritualité vous rend libre. Je veux vous dire que Dieu est capable, je sais que vous n'allez pas aimer, je sais qu'on va me critiquer, mais Dieu est capable, semble-t-il, de changer de bouche. Dieu est capable de dire à un prophète, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Ézéchias va dire, tu mourras. Le roi parle à Dieu. Dieu renvoie le même prophète pour dire, finalement, va lui dire que j'ai rajouté 15 ans à sa vie. Écoutez, ça doit vous rassurer que vous avez un Dieu qui n'est pas un homme. Ça doit vous rassurer que Dieu soit capable d'être plus grand que la Bible. Dieu n'est pas tenu en otage par sa parole. Oh, Dieu n'est pas tenu en otage par la Bible. Vous allez me dire, évêque, comment tu peux dire ça? Je veux vous dire que Dieu est capable de faire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. La Bible doit être une boussole. La Bible ne doit jamais devenir une chaîne qui nous fait croire que Dieu va arrêter d'être Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de faire quelque chose pour lequel il n'y a aucun précédent? Parce que pour vous bénir, pour faire du bien à l'homme, Dieu ne regarde pas en arrière. Le seul problème que j'ai avec l'Église ces derniers temps, c'est que nous avons des gens qui ne connaissant rien au principe divin, mettent le dessus ou mettent l'accent sur leurs émotions, sur leur logique humaine pour vouloir nous emmener à vous diriger. Écoutez, s'il vous plaît, je le dis avec toute l'humilité possible. Si vous ne nous faites pas confiance de vous guider là où Dieu veut vous emmener, changez d'église. Si vous avez le sentiment que nous ne sommes pas capables de vous montrer la voie, allez chercher quelqu'un qui va le faire. Soit vous nous faites confiance, soit vous ne nous faites pas confiance. Mais on ne peut pas, après toutes ces années, devoir justifier nos choix devant vous. Il me faut une heure maintenant, je pense que je suis un conférencier. Parce que là, je cours, je ne peux pas vous donner tout ce que je veux vous donner. Une heure, ce serait le minimum. Écoutez-moi bien. J'ai commencé avec l'histoire de deux femmes qui se retrouvent à manger un enfant. Je vais essayer de conclure et de revenir sur ces femmes dans le temps qu'il me reste. Mais je veux vous dire que dans cette vie-ci, la différence entre les gens qui réussissent, les gens dont les maisons tiennent, les gens dont les vies tiennent debout après les intempéries, et les gens dont les vies tombent après les intempéries, le texte révèle que ça n'a rien à voir avec la bâtisse. On ne vous parle pas des matériaux utilisés pour construire la maison. Vous ne savez pas si c'est en planche, vous ne savez pas si c'est en dur, vous ne savez pas si c'est en diamant. On ne vous parle pas de la couleur de leur peau, on ne vous donne pas leur nom, on ne vous donne pas leur âge, parce que ces choses-là ne sont pas prioritaires. La priorité n'est pas ce qui se voit en surface, c'est ce qui est en profondeur. Et je veux que vous sachiez que la différence entre vous et les autres sera dans votre capacité à ne pas être superficiel, mais à aller en profondeur. La fondation, les fondements sur lesquels vous bâtissez ce que vous bâtissez déterminent si ça tiendra ou si ça s'écroulera. Voici les traits de caractère qui sont mis en exergue dans ce texte. La prudence et la folie. Vous serez soit prudent, soit fou. Voici comment est définie la prudence. La prudence est une qualité, une attitude d'esprit de celui qui prévoit, calcule les conséquences d'une situation et qui règle sa conduite de façon à les éviter. Je vais redire ça. Une des définitions du mot prudence est la suivante. La prudence est la qualité, l'attitude d'esprit de celui qui prévoit, calcule les conséquences d'une situation, d'une action qui pourrait être fâcheuse ou dangereuse moralement ou matériellement et qui règle sa conduite de façon à les éviter. À cause du temps. La prudence se voit donc dans la capacité à prévoir le pire et après à fournir des efforts supplémentaires pour sécuriser son investissement actuel. Ah, que Dieu m'aide. Ok, c'est pas grave. Encore une fois, je ne donnerai pas tout. Mais voici ce que vous devez retenir par rapport à la prudence, parce que je veux vous aider. De manière simple, quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui voit avant. Prévoir, prévidere, c'est voir avant, en latin, c'est voir avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas être prudent sans vision. Mais c'est là où vous devez m'entendre, parce qu'un homme prudent ne voit pas que le bonheur. Un homme prudent n'entrevoit pas que le succès. Un homme prudent voit l'échec et il se prépare à échouer. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas prudent que vous ne prévoyez pas qu'il va y avoir des embouteillages. qui vont empêcher que vous arriviez à l'heure. Mais quelqu'un de prudent, quelqu'un de prévoyant, quand il quitte de chez lui bien avant l'heure du rendez-vous et qu'il rentre dans l'embouteillage, appelle pour dire « il se peut que j'ai du retard parce que je suis dans un embouteillage dont je ne connais pas la fin ». C'est majeur ce que je veux vous dire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être prudent dans la vie si vous n'êtes pas capable d'entrevoir même le pire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Toi, tu te prépares à qu'est-ce qui se passe quand tu vas réussir. Moi, je me prépare à qu'est-ce qui se passe si je réussis, mais aussi qu'est-ce que je fais si j'échoue. C'est parce que je me suis préparé à l'échec que l'échec ne me tue pas. Toi, dès que tu échoues, tu perds tes moyens. Je vais parler à quelqu'un. Tu as donné ton dossier à quelqu'un parce qu'il vient d'être nommé. Il vient d'être nommé, tu lui as donné ton dossier. C'est un oncle, c'est un parent. Tu lui as donné ton dossier. Dans ta tête, tu ne peux pas ne pas avoir gain de cause. Et donc, quand le temps passe et quand finalement on ne t'appelle pas, tu es perdu. Parce que tu as mis tous tes œufs dans le même panier. Parce que tu te dis de toutes les façons, c'est mon oncle, il ne peut pas ne pas m'appeler. Histoire vraie. Le temps est fini. Histoire vraie. On est à l'époque au centre-ville. Je reçois une jeune dame qui vient dans mon bureau. Elle est en pleurs. À l'époque, je suis pasteur et je l'écoute et elle me parle. Elle me dit, pasteur, elle pleure. Et j'essaie de la calmer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, pasteur, elle pleure. Donc j'attends qu'elle finisse de pleurer. Entre deux sanglots. Elle me dit, pasteur, mon oncle est mort. Pris de compassion. Je dis vraiment, mes condoléances. Je suis désolé. Elle dit, pasteur, vous ne comprenez pas. Bon, je comprends que l'oncle meurt, parce que moi, je comprends la mort. Donc, je ne sais pas de quoi elle parle. Donc, elle me dit, pasteur, vous ne comprenez pas. Histoire vraie. Mon oncle venait d'être nommé. Je dis encore, ah, vraiment, Yako. Elle dit, pasteur, vous ne comprenez pas. Je lui avais donné mon dossier. Je commence à comprendre. Elle me dit, pasteur, maintenant que mon oncle est mort, comment je vais faire pour travailler? Voici quelqu'un qui voit son travail partir avec la mort de son oncle. Parce qu'elle ne prévoyait pas que son oncle ne soit pas capable de lui donner du travail. Les gens prévoyants sont des prophètes. Dire comme ça, les gens prévoyants ont accès au futur, se projettent. Toujours par rapport à la prudence. Au-delà du fait de prévoir ou de voir avant, écoutez-moi bien s'il vous plaît, quelqu'un de prudent calcule ce que ça va lui coûter d'échouer. On se lance dans une affaire. On se dit, on va gagner. On met $1 million dans l'affaire. Écoutez-moi. $1 million, c'est à peu près 600 millions de francs CFA. Si je mets les 600 millions dans l'affaire, je dois être prêt à les perdre. Maintenant, moi, Michel Embourouet, même si c'est mon frère, et qui me dit, mettons 600 millions dans l'affaire, il me dit, parole de prophète, ça va prendre. C'est mon frère. Et je crois en son ministère. Sauf que je ne suis pas prêt à perdre 600 millions de francs CFA aujourd'hui. Je ne doute pas de lui. J'évalue ma capacité à perdre. Et moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas d'accord de perdre 600 millions. S'il m'avait dit l'affaire, c'est 500 000 francs CFA. Je donne les 500 000 sans cligner des yeux. Parce que je fais confiance, mais aussi parce que je suis d'accord de perdre. Écoute-moi, ne rentre pas dans quelque chose. Si tu n'es pas d'accord de perdre l'investissement, n'investis pas. Si tu n'es pas d'accord de perdre le temps avec ce gars qui te dit « on s'étudie », ne rentre pas dedans. Si tu vois la femme, elle ressemble à une croqueuse de diamants et que tu ne veux pas perdre tes diamants, ne rentre pas là-bas. C'est le fait de savoir ce que tu es d'accord de perdre qui doit t'emmener à aller, pas juste ce que tu es d'accord de gagner. Oh Dieu vivant d'Israël. Regarde ton voisin, est-ce que tu comprends ce que l'évêque dit? Est-ce que vous savez, je ne vous connais pas, mais Jésus rencontre quelqu'un, venez, suivez-moi. Jésus rencontre quelqu'un, Pierre, Simon, les autres, tous les gars, il les rencontre, Jésus les rencontre, il dit, suivez-moi. Écoutez ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut, suivez-moi, il aborde, il suivez-moi. Donc le gars suit, on marche, et puis Jésus un jour, en plein enseignement, il s'arrête, ses disciples sont là, les gens sont là, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'ils me suivent. Un jour, après ça, Pierre arrête Jésus à un carrefour. Pierre dit à Jésus, qu'adviendra-t-il de nous qui avons tout quitté pour te suivre? Pierre avait déjà compris et avait été d'accord de perdre. Donc ce n'était pas la question qu'il pose à Jésus, c'est pas qu'est-ce que je vais perdre. Après avoir pris la décision de perdre, la question qu'il pose à Jésus, c'est qu'est-ce que je vais gagner? Le diable, quand il vient à toi, ne te présente pas ce que tu vas perdre. Quand le diable vient à toi, il te présente ce que tu vas gagner et il te cache ce que tu vas perdre. Quand Dieu vient à toi, il te présente ce que tu vas perdre et il te cache ce que tu vas gagner. Merci. J'essaye de dire à quelqu'un, que c'est Satan qui se cache derrière une affaire où tu ne sais pas ce que tu vas perdre. C'est Satan qui se cache derrière une relation où tu ne sais pas ce que tu vas perdre. Refusez d'être manipulé par des gens qui vous font miroiter quelque chose qu'ils ne vous donneront jamais. On est dans la transition. Oh, je veux, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Eh hey, Seigneur, mon parent est un homme. Eh hey, Dieu, hey, la bénédiction a visité ma famille. Eh, hey, on se réjouit. Je vois comment vous vous réjouissez pour les nominations. J'ai pitié. Laissez-moi parler à la manière d'un homme. Quand quelqu'un est nommé, tout le monde se dit, c'est fini, la famille est sortie du trou. Même les amis qui ne l'appelaient plus. On a appris ensemble à l'école, au CP. La seule personne qui sait ce qu'elle va perdre, c'est celle qui est nommée. Tous les autres autour ne pensent pas à ce qu'ils vont perdre. Ils ne pensent qu'à ce qu'ils vont gagner. Mon temps est fini. J'ai parlé de la prudence, je vous parle rapidement de la folie. S'il y a des niveaux de prudence, selon moi, tout le monde ne sera pas toujours prudent. Nous tous ici. Il y a des moments où on va être fou. Tu ne dis pas amen parce que c'est vrai. Il y a des moments, tu es fou, tu es folle. Toi-même, tu sais. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. La folle la renverse. Mais est-ce que vous savez que pour que quelqu'un renverse une maison, c'est qu'elle l'a d'abord construite. Donc la femme que vous voyez cassée là, elle a d'abord bâti. C'est possible d'être en même temps une femme sage et en même temps une femme folle. C'est possible que dans ton fort intérieur, il y ait de la sagesse. Mais quand tu es sous pression, il y a de la folie. Maintenant, je veux vous aider. Ne dites pas aux femmes que je vous ai dit, je vous dis. Ces femmes me montrent qu'il y a aussi des niveaux de folie. Il y a une femme qui a été tellement folle qu'elle a donné son propre enfant. Il y en a une autre qui était assez folle pour manger l'enfant d'autrui, mais pas pour qu'on mange son enfant. Il y a des gens qui vont vous dire de faire des choses qu'ils ne feront pas eux-mêmes. Parce qu'ils sont moins fous que ceux que vous pensez. On a tous connu ces gens qui groovent et qui réussissent. Pendant que toi qui devais étudier, tu as suivi les grooveurs. Mais tu ne savais pas que les grooveurs après le groove allaient étudier. Vous êtes bizarre ce matin. Parce que je dis la vérité que vous ne dites pas bien amen. Voici ma dernière exhortation et on va prier pour la fin. Au cœur du système divin, il y a l'homme. Au cœur d'une nation, il y a l'homme. Au cœur de l'homme, il y a son cœur. La tour de contrôle de ta vie, c'est ton cœur. Ce n'est pas ta poche, ce n'est pas tes études, ce ne sont pas tes relations, c'est ton cœur. Mais tes relations peuvent influencer négativement ton cœur. Voici mon exhortation. La femme qui était la plus folle dans cette histoire et qui a mangé son enfant avec une femme qui n'avait jamais le projet de partager son enfant. Sa grande folie était d'être naïve. Croire que les gens sont comme toi, c'est de la folie. Penser que tout le monde dit ce qu'il pense, c'est faux. Il y a des gens qui vont te dire ce que tu veux entendre pour pouvoir te manipuler. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tes fréquentations peuvent te rendre fou. Choisis-les minutieusement.
C'était À la découverte de soi, le podcast d'enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. Nous vous encourageons à utiliser chacune des ressources que vous avez trouvées dans cet épisode. Rendez-vous sur michelambourouet.com pour découvrir d'autres prédications et des enseignements de sagesse. À la découverte de soi, un podcast MA Organisation.